Bien, bonjour et merci de votre invitation, merci aussi d'être tous là présents et attentifs. Moi je vais vous parler civilisation, violence et relations à autrui. Je vais vous parler des gens normaux plutôt. Vous finissez toujours par les voir lorsqu'ils ont fait des choses particulièrement épouvantables. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est comment les gens normaux, dans les contextes de facilitation sociale, en rapport avec l'usage qu'ils font de leur volonté ou les défaillances de leur volonté, en rapport aussi avec l'éducation et le soutien qu'ils reçoivent, comment ils peuvent basculer dans la violence et quel type de violence. Je ne vous parlerai pas de la violence gérée, organisée et perfectionnée des appareils de la violence. J'en ai abondamment parlé dans mes écrits. Pareil, la violence militaire, le maintien de l'ordre, une violence qui est de plus en plus aseptisée à force de perfectionnement technique et de recherche de contrôle sur les images. Ce sera un aspect très intéressant parce que s'il y a, je dirais, un stress des personnes normales, il y a aussi un stress des forces de l'ordre aujourd'hui par rapport au contrôle de la violence et au contrôle des images de la violence. Moi, je vais vous parler plutôt de la violence privée, civile, artisanale. Celle qui arrive par accident ou par malheur au jour le jour dans des sociétés civilisées, c'est-à-dire des sociétés qui reposent dans leur principe sur la paix civile. Alors je vais vous décrire, à partir des travaux que j'ai menés depuis fort longtemps, un certain type d'acteur de la violence qui est bien connu des spécialistes. Et puis je parlerai d'un autre aspect qui aujourd'hui va compliquer les problèmes. Vous savez qu'il y a dans les statistiques innombrables que nous avons sur la délinquance, on note une baisse de la délinquance, mais une augmentation des agressions contre les personnes. Donc je vous parlerai d'un autre aspect, c'est-à-dire ce qui vient compliquer les problèmes. Alors c'est la montée non pas d'un type de violence où il y a rejet, fermeture, cécité à autrui, et je dirais à la base une absence de sociabilité qui rend les comportements encore plus durs et cyniques. Alors je commence par un certain type d'individus violents, décrits souvent par les sociologues et les criminologues, des individus violents ordinaires, donc pas des criminels endurcis, qui ont un certain nombre de traits en commun, une enfance parfois perturbée, bon, à quelle mesure y a-t-il eu vraiment maltraitance, mais perturbée, des ressources faibles, des moyens de gestion des interactions et des situations relativement limitées, des problèmes de gestion du langage, et ils sont, je dirais, de plus en plus fréquents et généralisés dans notre société. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne savent pas bien s'exprimer ni communiquer, qui comprennent approximativement ce qu'on leur dit, qui ont des difficultés, je dirais, à gérer des situations compliquées. Donc ce sont des individus qui sont facilement déconcertés ou déstabilisés, avec parfois des comportements erratiques. Et fut un temps où les sociologues parlaient d'eux comme de primitifs normaux. Ce sont des primitifs normaux au sens d'individus mal équipés pour la vie que nous menons et les interactions auxquelles nous avons affaire dans un monde qui est extraordinairement compliqué, qui est de plus en plus compliqué et où tout fait système. C'est pour ça que je dirais qu'il faut tout de suite relativiser le type d'exclusion qu'on fait peser sur eux, parce que je dirais que ces individus, ces primitifs normaux, ça peut être aussi bien parfois vous et moi, c'est-à-dire des gens normaux déstabilisés au sein d'un monde où les interactions sont multiples, changeantes, où les codes de comportement sont divers, souvent contradictoires, et où il n'est pas anormal d'être parfois perdu, déstabilisé, de paniquer au sein des interactions, de perdre les pédales. Aujourd'hui, l'expression courante, c'est aussi péter les plombs. Et d'une certaine manière, nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, devenir ces sortes de primitifs normaux. Dans les situations de stress, dans les situations de crise personnelle, de soucis professionnels, de ce que dans le temps on appelait surmenage, on ne parle plus de surmenage, on parle d'hyperstress. Et alors comment est-ce que ce type de violence potentielle ne fait pas plus de ravages? Je dirais d'abord de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a un mode de prévention très puissant dans nos sociétés qui est la ségrégation sociale, la ségrégation des espaces et disons l'organisation des rencontres. Il y a un deuxième type de prévention qui consiste dans l'aménagement des situations à travers les files d'attente, les agents d'accueil, tout le domaine considérable aujourd'hui de la médiation sociale. Alors pour ce qui est du premier mode d'occultation, eh bien, c'est vrai que nous, dans notre monde quotidien, nous nous déplaçons, mais nous nous déplaçons de manière extraordinairement réglée et limitée. Et c'est vraiment que, exceptionnellement, dans les moments de célébration, de fête, où se rassemblent des individus d'origine extrêmement différente, que nous avons l'occasion de côtoyer tout un chacun. Et la plupart du temps, nous fréquentons des territoires qui sont balisés et qui sont circonscrits. Et aussi, il faut dire que les personnes que nous serions à risque, que nous serions susceptibles de rencontrer, ne quittent pas non plus leur territoire. Je parle des gens vivant dans les zones sensibles, dans les cités. Les transports en commun desservent peu. Et en général, quand ils sortent aussi de leur territoire, ils sont relativement perdus et désorientés, comme pour des expéditions en terrain hostile. Mais je dirais que quand nous perdons nos espaces habituels, ou quand nous nous retrouvons dans des situations de mélange et de mixité, eh bien effectivement, quand il n'y a pas cette barrière de la ségrégation, les risques sont tout à fait importants. Et je me souviens, c'est juste une anecdote, il y a quelques années, quand je m'occupe aussi pas mal d'art contemporain, j'étais allé vers Aulnay, dans un centre d'art qui venait de se créer au milieu des cités, qui s'appelait la Maladrerie, bien nommée. Et comme je suis pas mal habitué aux situations, disons, difficiles, j'ai tout de suite senti que j'étais dans un mauvais espace, en quelque sorte. Je n'avais pas la bonne tenue, je n'avais pas le bon comportement, j'étais totalement déplacé et j'étais une proie pour des prédateurs officiels. Et il y avait un groupe de gens qui, pour moi, étaient potentiellement dangereux, même s'ils ne l'étaient pas, finalement, et que la question c'était comment gérer la rencontre. Et j'ai géré la rencontre tout simplement en leur disant que j'allais à un vernissage. Évidemment, alors c'était typiquement quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais qui n'était pas spécialement agressif, et je leur ai expliqué que c'était un vernissage, et je leur ai même proposé de les emmener avec moi pour aller voir l'exposition d'art contemporain, ce qu'ils ont décliné, mais ils avaient commencé par dire qui c'est ce petit monsieur avec son cartable. C'est là où j'avais commencé à sentir que les choses étaient pas là. Bon, quand il n'y a pas les barrières de la ségrégation, eh bien, il y a beaucoup de protections et de barrages qui sont dressés par les agences et les professions spécialisées. C'est ce que nous appelons dans les sociétés contemporaines, gérer les problèmes, apporter des remèdes. Il y a les corps de police, les corps de sapeurs-pompiers, les agents du SAMU, les agents du SAMU social, les psychologues, les psychiatres, les vigiles, les agents de surveillance, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, les médiateurs, les hôtesses. Nous avons un très bon niveau, je dirais, et bonne connaissance des manières de gérer les interactions. Alors, ce sur quoi j'insiste maintenant, c'est qu'il ne faut pas, même si j'ai pu donner cette impression, il ne faut pas y voir une caricature outrancière, il ne faut pas non plus stigmatiser, parce que par ailleurs, ces individus, et encore une fois, ça peut être nous aussi, beaucoup de moments de notre vie, ces individus ne se débrouillent pas si mal, ils savent se servir d'appareils compliqués, ils connaissent les ressources d'aide et d'allocation, ils connaissent les trous de la législation, ils savent à quoi ils ont droit. Ils aiment se regarder agir à travers les appareils optiques, les enregistreurs, les appareils numériques, les téléphones caméras, pensez au happy slapping. Et je dirais que, d'une certaine manière, les sociétés où on vit sont des sociétés nerveuses qui multiplient les occasions de se sentir déstabilisées. Dans cette nervosité, mauvaise remarque, un accrochage, la mauvaise interprétation des signes dans les interactions. Et évidemment, pour calmer aussi la nervosité de ces sociétés, il y a dans ces sociétés, il y a une variété de sédatifs chimiques, drogues, alcool, défoulement du spectacle, défoulement du sport, rituels collectifs, sacrifices rituels aussi, accident de la route, conduite à risque, etc. Ça fait partie, disons, de l'ensemble de traitements, et je dirais en même temps de traitements en boucle de cette nervosité. Alors, ce qui m'a frappé dans les évolutions récentes, c'est à travers un certain nombre de faits divers qui sont dans tous les esprits, l'enlèvement, par exemple, la séquestration, la torture et le meurtre de Ilan Halimi en octobre 2005, le meurtre de Sohan Benzian qui a été brûlé vive en 2002 à Vitry, d'autres éléments qui sont moins graves, mais les affrontements extrêmement durs entre certaines bandes avec mobilisation d'armement extrêmement létaux, hein, que ce soit les battes de baseball ou les pistolets à grenaille ou les armes à feu. Ce qui m'a frappé aussi à travers les ratonnades de casseurs contre les lycéens manifestant contre la loi Fillon ou contre le contrat première embauche, c'est l'apparition quand même d'un nouveau profil de violent, assez différent, cynique, seul au monde, aveugle à l'existence d'autrui, et le considérant autrui comme une ressource à exploiter ou un ennemi à faire disparaître. Alors, pour nous autres philosophes, nous avions l'habitude de rencontrer ce thème, mais nous le rencontrions de manière extrêmement abstraite et confortable, je dirais, à travers des analyses philosophiques, mais pas dans le concret des situations. Dans le concret des situations, c'était l'affaire éventuellement de la police et des juges, mais ça ne venait pas véritablement au jour et ça ne touchait pas vraiment la réflexion. Il y a un philosophe dont j'ai toujours été surpris que sa théorie, sa vision des relations avec autrui n'ait pas été plus analysée, étudiée, aussi bien par ses ennemis que par ses partisans, c'était Jean-Paul Sartre. Parce qu'il avait effectivement une conception très noire de la relation autrui, assez petite bourgeoise aussi. Et je vous avais demandé quelques mots avant de procéder à mon analyse. Sartre disait que la réalité humaine est pour soi, c'est-à-dire une capacité de néantisation, de conscience et de projet libre. Pour soi, de la projection du projet libre, de la prise de conscience et de la néantisation aussi bien des objets que des autrui. Or, dans la relation interhumaine, tous les autrui sont aussi des pour soi, sont donc des alter-égos, et ou ce qu'il appelle un double démoniaque ou un double maléfique, puisque si moi je suis capable de néantiser autrui est toujours une capacité de néantisation de moi-même. Et Sartre disait que autrui est celui qui me donne une nature en m'appréhendant comme objet dans le monde, celui qui me pétrifie, je donne des expressions exactes, celui qui peut voir le monde selon sa propre perspective, celui qui me vole le monde, ou par qui la situation m'échappe. Donc celui qui m'exclut du monde. Et donc autrui représente une relation fondamentalement dangereuse, fondamentalement menaçante. Je cite un passage de L'être et le néant, version 1943, hein, je veux dire que c'est publié en 1943, disant « Je suis en danger, et ce danger, avec autrui, je suis en danger, et ce danger n'est pas un accident, c'est la structure permanente de mon être pour autrui. » J'ai toujours été étonné qu'il y ait énormément de commentaires sur Jean-Paul Sartre, et pas sur cette théorie extrêmement violente, dure et nihiliste de la relation autrui. Alors face à cette transcendance, et ça c'est des textes de L'être et le néant qu'en général les gens ne lisent pas parce qu'ils n'arrivent pas au bout, face à cette transcendance, mais je vous conseille d'aller y voir parce que vous allez voir que c'est pas triste, je peux soit chercher à capter et à faire mienne la liberté d'autrui, alors c'est dans l'amour, dans la séduction ou dans l'attitude masochiste, en me positionnant comme sa victime en quelque sorte, ce que probablement il cherche ontologiquement. Soit je peux, à l'inverse, essayer de transcender sa propre transcendance, c'est-à-dire néantiser autrui à travers l'indifférence, le désir, la haine, le sadisme. Et il y a des textes sur le masochisme et sur le sadisme autour des pages 350-400 qui sont extrêmement intéressants, de l'être aimant, sont extrêmement intéressants, dont certains sont quasiment pornographiques. Je signale toujours que c'est une raison de lire jusqu'au bout l'être aimant. Et je fais régulièrement l'expérience que les gens n'ont pas lu jusqu'au bout. Parce que connaissez-vous, par exemple, le texte de Sartre sur la non-intentionnalité du pénis, par exemple? Ben oui, c'est dans l'être aimant. Vous avez une page entière sur la non-intentionnalité du pénis. Et elle vaut vraiment le détour. Donc la violence est au cœur de l'intersubjectivité. Et alors dans la critique de la raison dialectique, Sartre en a rajouté, je dirais, encore une couche, puisque cette analyse, il n'a pas du tout démenti cette analyse, mais il rajoute l'élément de la rareté. C'est-à-dire que la simple existence de chacun est définie par la rareté comme risque constant de non-existence pour un autre et pour tous. Chacun d'entre nous, parce qu'il a besoin de biens qui ne sont pas inépuisables, peut provoquer la mort de l'autre par la pénurie. Et donc, la pure réciprocité dans l'être et le néant mettait en présence deux sujets qui sont fondamentalement ennemis et choses l'un pour l'autre, double démoniaque. La réciprocité maintenant modifiée par la rareté, mais en présence de l'autre comme porteur d'une menace de mort qui devient vraiment, à ce moment-là, le mal radical. Et donc, Sartre définit la violence, à ce moment-là, comme structure de l'action humaine sous le règne du manichéisme et dans le cadre de la rareté. La violence, c'est l'inhumanité des hommes, ça c'est la thèse de l'être et le néant, intériorisant la rareté, c'est l'ajout de la critique de la raison dialectique. Alors j'ai fait ce détour parce que, d'une certaine manière, si on veut sortir de ce cauchemar sartrien, il faut aller directement au centre névralgique et mettre en question la thèse centrale, c'est-à-dire le mode de pensée, la théorie de l'individu, le mode de pensée individualiste. Et ça veut dire qu'il faut placer au centre de la pensée non pas l'individu comme cette entité fermée, néantisant toute chose, mais l'énigme, l'ouverture à autrui, et l'énigme qui se donne dans la personne. Bien évidemment, le philosophe qui vient à l'esprit, rassurez-vous, je vais redescendre sur Terre, le philosophe qui vient à l'esprit, là, c'est Emmanuel Lévinas, qui, lui, insistait fondamentalement, c'est-à-dire s'il y a une philosophie qui est absolument non sartrienne et non une philosophie de l'individu, c'est celle d'Emmanuel Lévinas, qui insistait sur l'infini et la fragilité de chaque être, à la fois achevé et inachevé, exposé au monde et à autrui, ne pouvant s'accomplir et se réaliser parce qu'il n'y a pas d'état de complétude, mais il peut seulement s'ouvrir dans cette vulnérabilité avec une fragilité et une précarité de principe qui appelle le souci d'autrui, mais aussi bien le souci d'autrui pour moi. Et donc il en est une responsabilité éthique qui est engagée dans chaque rencontre avec l'autre. Alors, je dirais que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'une représentation du monde en termes d'égoïsme, de performance, de rentabilité immédiate, de valorisation des moyens sans aucune interrogation sur les fins, connaît un très grand succès. Et une représentation du monde où le respect est dû à ceux qu'il demande sans qu'il sache ce qu'est une personne, se diffuse très facilement dans une ambiance de cynisme où ce sont les plus brutaux, les plus malins, les plus corrompus qui l'emportent. J'ai été assez intéressé de voir la semaine dernière un sondage d'opinion français, un de plus, établissant que pour les Français, je veux dire, ce sont les plus malins, les plus corrompus qui aujourd'hui s'en sortent le mieux, les autres n'étant que ce qu'on appelle maintenant dans les collèges et lycées des bouffons. D'une certaine manière, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas les spéculations métaphysiques elles-mêmes, c'est qu'il y a un grand sociologue que j'ai contribué à faire connaître en France, un grand sociologue anglais d'origine polonaise, Zygmunt Bauman, vous en avez probablement entendu parler, qui très curieusement fait une analyse extrêmement pessimiste des sociétés contemporaines, mais en réintroduisant pour finir des positions lévinassiennes. C'est-à-dire que pour Bauman, le développement de l'individualisme est allé de pair avec le développement des Lumières, c'est-à-dire la libération de l'homme de la suggestion religieuse et des morales traditionnelles, c'est-à-dire l'émancipation et des superstitions et de la tradition. Et du coup, c'est la valorisation des Lumières, il en est résulté un individu libre, autonome, mais la contrepartie, c'est que cet individu est déboussolé, il est instable, il est désorienté, il est nerveux dans un monde, c'est une expression favorite de Bauman, d'un monde qui est liquide, qui est insaisissable, et il ne cesse de passer des contrats avec autrui, mais il est guetté par la panique et la violence dès que les codes échouent ou dès qu'il prend conscience du manque de substance de son existence. Donc vous voyez, ça boucle à boucle par rapport à ce que je disais au début sur le primitif normal ou la personne cynique. C'est-à-dire dans un monde qui va jusqu'au bout de sa modernité, il n'y a pas de raison que ça change beaucoup, règne le contrat, l'utilité et, je dirais, la peur et le vide. Si vous les voyez, non pas plus que moi, mais sûrement autant, quand vous entendez des jeunes gens aujourd'hui parler, y compris des jeunes gens très bien, ce ne sont que deals, bons plans, bons coups, sur fond de peur. Alors, je dirais qu'il est, j'en viens maintenant au dernier point que je voulais aborder, c'est qu'il est un peu facile de tout renvoyer sur le système. Il est évident que les conditions sociales, la mondialisation, le libéralisme, les chansons, on la connaît, et tout ça crée un système qui est à la fois compliqué, tricoté, serré, et d'une certaine manière, si c'est lui qu'on se met à accuser, il est évident qu'on ne peut jamais rien changer. C'est facile de décharger sa responsabilité sur le système, puisqu'au fond, ça revient à dire le coupable est tellement inassignable, tellement liquide que nous n'y pouvons rien, et mieux vaut abdiquer. Moi, je crois au contraire, ça va être la dernière partie de ma communication, je crois qu'aujourd'hui, il faut se reposer la question de la sociabilité et se reposer la question de la sociabilité d'une manière extrêmement concrète. C'est vrai qu'il y a une crise de la sociabilité, elle tient certainement au développement de l'individualisme, du sens de l'utilité, à la promotion de l'individu égoïste comme modèle d'accomplissement. Mais après tout, ce n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il y a 160 ans, en 1848, Marx et Engels parlaient déjà, dans le manifeste communiste, des eaux glacées du calcul égoïste dans lequel le monde entier est plongé. Bien évidemment, il y a l'affaiblissement des structures communautaires, familiales ou religieuses, et d'ailleurs on voit que, corrélativement, il y a une demande très forte aussi de reconstitution de ces communautés, les familles recomposées, les pratiques de sectes, les clubs de supporters, les adhésions religieuses, y compris les adhésions religieuses extrémistes. Tout ça, c'est une sorte de manière de réagir à cette crise des structures communautaires, familiales ou religieuses. Alors, cette crise de la sociabilité me semble plus grave et plus profonde, je dirais, en France que dans d'autres pays européens. Parce que nous avons, bien sûr, le désenchantement, les eaux glacées du calcul égoïste et capitaliste, mais nous avons des éléments importants propres qui jouent, c'est une grande défaillance, je ne dis pas faillite, c'est un mot, qu'on peut plus utiliser, mais une grande défaillance de l'éducation, une particulière hantise des statuts en France, notamment à cause de cette énorme hypertrophie du secteur public, et une obsession égalitaire qui est à peu près la seule chose qui nous reste du socialisme. Alors pour ce qui est de l'éducation, mais c'est évident que, et là je parle de première main parce que je suis continuellement engagé dans des activités touchant aussi bien le collège que le lycée, ben, c'est vrai que l'école ne forme plus à la sociabilité. Bon, c'est pas forcément son rôle principal, hein, mais comme on ne sait pas non plus tellement à quoi elle forme par le reste, en tout cas en termes de savoir, on a une école qui continue à vivre sur la fiction de la transmission du savoir, fiction de la transmission du savoir, je dis bien, sans se préoccuper des autres apprentissages qui sont le vivre ensemble, la sensibilité et le civisme. On fait en fait semblant de boucler des programmes qui sont des fictions livresques, et puis le reste, on le laisse, au temps hors de l'école. Bon, par ailleurs, je vais très vite parce que c'est un de mes dadas, j'en ai parlé dans plusieurs ouvrages, il y a cette culture du statut avec une fonction publique qui est omniprésente et qui est agressive. qui entretient une paranoïa du soupçon, pensez tout simplement à toutes les lettres administratives que vous recevez, hein, et à la manière dont elles sont écrites, si c'est pas il n'y a pas derrière tout ça strictement de la méchanceté, dans les meilleurs délais. Hein, tout ce qu'on reçoit, hein, tous les jours, vous avez une lettre qui en dit long sur l'insociabilité administrative. Moi, je ne l'ai jamais vu pour ma part dans mon expérience. J'ai dirigé un établissement public, j'ai une longue expérience. Je n'ai jamais vu un fonctionnaire commettant un abus de droit qui ne se décharge pas sur le système et sur son respect du règlement. Et puis, il y a bien sûr, comme j'ai dit, cette obsession égalitaire. En plus, sur fond d'une hypocrisie formidable qu'elle peut se faire en France, tout le monde veut être encore plus égal que les autres en se cramponnant à ce qu'il est convenu d'appeler depuis 1993 les acquis sociaux. Bon, alors je dirais que je ne vais pas parler seulement des défaillances de l'école, mais je vais parler concrètement des tâches de reconstruction. J'ai encore 5 minutes, donc je vais les aborder à ça. Alors c'est vrai que je ne suis pas de ceux qui mettent en cause l'héritage de 1968, je ne suis pas Luc Ferry, tant pis pour vous, hein. C'est vrai qu'il y a, dans la société française, c'est une de mes énigmes, il y a aussi, en même temps que tout ça, en même temps que cette sorte d'insociabilité, il y a un compassionnalisme généralisé. Le titre d'Amélie sur la violence était « Essai sur la bienveillance universelle et la peur », avec un mélange de mauvaise conscience, de conformisme, de politiquement correct, tout à fait étrange. Bon, on fait remonter souvent aussi pas mal de problèmes aux questions d'immigration et aux questions d'intégration. Alors, c'est vrai que la France a une immigration extrêmement forte, une immigration notamment d'origine musulmane extrêmement forte, comparé aux autres pays d'Europe. Je veux dire, la Grande-Bretagne comporte 1,5 million à peu près de musulmans, nous c'est 5 ou 6. Hein. Bon, alors je dirais que sur ce sujet-là, il ne faut pas non plus se précipiter, parce que d'abord, on connaît très mal ce qui se passe, compte tenu de l'absence de la volonté d'aveuglement et de l'absence totale de statistiques sérieuses sur les questions. Je ne suis pas du tout sûr, dans l'expérience que je peux avoir, notamment dans les lycées de banlieue, que l'intégration soit en si mauvais état qu'elle rate. Il y a certainement des poches de ratage très fortes, des poches de population, certains petits segments de population où le ratage d'intégration est très très fort. Il y a aussi, je pense, une intégration beaucoup plus rapide en sourdine qui est en train de se passer. Ce qu'il faut voir aussi, et là, je vais passer aux questions concrètes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que très souvent, on a affaire à des parents qui ne savent littéralement pas comment faire. Et que une des idées qu'avait lancée Ségolène Royal, qui avait fait rire tout le monde, c'était l'idée d'école de parents. Et c'est vrai que dans certains secteurs de la société, les parents ne savent littéralement pas quoi faire et pas comment remplir leur rôle. Et quelquefois, dans les meilleurs des cas, on constate que certains établissements scolaires servent de communauté de formation à la fois des parents, des enfants et des parents. Bon, j'en viens au remède. Je vais rapidement, j'en viens au remède. Je dirais que, pour ce qui est de cette insociabilité, nous ne sommes pas du tout démunis. Simplement, nous avons à mener, je dirais, au jour le jour, des actions de terrain et essayer de les mener de manière relativement cohérente. Ce qui est assez paradoxal dans la situation française, c'est que l'ensemble, je dirais, des dispositifs de remède et de prévention de la violence sont présents, mais qui fonctionnent d'une manière extraordinairement désordonnée, avec beaucoup de redondance, beaucoup de concurrence, beaucoup de gâchis aussi, mais les éléments sont là. Alors je dirais que pour ce qui est de la démocratie permissive, du compassionnalisme généralisé, de cet esprit post-68, je crois qu'il faut savoir sortir du politiquement correct. Je suis extrêmement frappé de voir comment, au niveau médiatique notamment, il y a une sorte d'omniprésence de la correction politique, mais que Par ailleurs, les gens sont beaucoup moins convaincus la nécessité de la correction politique et ont quand même plus de bon sens qu'il paraît. Deuxièmement, pour ce qui est des questions d'éducation des parents, je crois qu'effectivement, il faut penser à l'éducation des parents, notamment autour de l'école, parce qu'ils sont des usagers de l'école à travers leurs enfants, et que la communauté scolaire, quand elle fonctionne bien, peut aussi servir à cette sorte de formation, formation des parents. Et puis l'école elle-même, et ça sera le point sur lequel je vais terminer. Bien, je dirais que là, il y a énormément à faire. C'est probablement le chantier le plus important des années à venir. Je crois à l'éducation, je crois à l'éducation tout le temps. Apprentissage d'abord de la sensibilité. La sensibilité, alors bien sûr, c'est la question de l'enseignement des arts à l'école. Il y a 20 ans qu'on en parle. Ça existe, mais ça existe d'une manière extrêmement disparate, sur des montages qui sont souvent très arbitraires et très individuels, mais il n'y a pas véritablement d'apprentissage de la sensibilité, compte tenu d'ailleurs du fait qu'on a affaire à des programmes qui sont littéralement obèses. Il est impossible de rajouter quelque chose sur l'art si on n'en enlève pas quelque chose ailleurs. Il est important qu'on diminue, qu'on restructure considérablement les programmes, mais il faut rajouter, des activités d'ouverture à la sensibilité et probablement d'ailleurs sur la base optionnel, mais optionnel obligatoire. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'on soit obligé, par exemple, dans sa scolarité, d'avoir une année où tous les après-midi, on aura des activités artistiques. Et puis l'année suivante, ça peut être des travaux manuels ou autre chose. Mais il faut absolument une formation à la sensibilité. Et seconde chose essentielle pour la formation à la sensibilité, et là encore, on en est loin, mais si on suivait le modèle italien, les choses changeraient très vite, c'est l'intégration très tôt, dès le début, des handicapés dans l'école. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les intégrer au collège, hein, quand tout est déjà joué, il faut les intégrer très très tôt pour que les enfants aient l'habitude qu'on peut être différent, on peut être moins fort, on peut être moins normal, et c'est tout à fait normal d'être moins normal. L'Italie a réussi merveilleusement cette intégration des handicapés dans les écoles, et c'est une obligation qu'il y ait un handicapé par classe. C'est tout. D'autre part, je dirais, pour formation, cette fois-ci non pas à la sensibilité, mais formation, je dirais, à autrui. Alors j'ai mené pendant 4 ans une expérience d'enseignement de la philosophie au collège, 5e, 4e, 3e, dans un collège de banlieue parisienne. Et je ne leur apprenais pas la philosophie, je leur apprenais à raisonner, à discuter, à réfléchir, je leur apprenais aussi à manier le langage. Et effectivement, un des premiers apprentissages qui était en jeu là derrière, c'était l'apprentissage de savoir écouter autrui, d'avoir que chacun parle à son tour, que quelqu'un qui dit une sottise puisse la dire, et n'ait pas peur éventuellement de la dire, que tout ce qu'il dit puisse être écouté, qu'on se réponde, et je me rendais compte que des enfants qui arrivaient hurlant dessus, la plupart du temps, en se tapant dessus et en se hurlant dessus, à la bonne franquette, hein, bien sûr, changeaient complètement de comportement à travers cet apprentissage, socratique, cet apprentissage du dialogue. Et je crois que ça ferait partie des novations de l'école d'instaurer, non pas un programme de philosophie, ça n'a aucun sens à mon avis, mais d'instaurer une pratique de l'échange philosophique qui est un enseignement de la reconnaissance d'autrui. Et moi finalement, je n'aurais pas pensé au départ, mais ce que je trouvais le plus intéressant dans cette expérience, c'était l'apprentissage de la reconnaissance d'autrui, l'apprentissage des valeurs citoyennes, l'apprentissage des valeurs de la discussion, se tromper, savoir reconnaître, savoir se mettre d'accord. C'était tout à fait important. Et puis, une dernière chose, bien sûr, là-dedans, il y aurait la formation à la politesse, c'est quelque chose qui doit être aujourd'hui réappris, et je dirais dès le plus jeune âge. Souvent, on s'est dit d'une manière un peu ridicule, d'ailleurs, que les élèves se lèvent quand le professeur arrive, mais je crois que le réapprentissage de la politesse est fondamental dans nos sociétés, si on veut recréer un petit peu de sociabilité, et qu'on apprenne aux enfants jeunes à respecter autrui et certaines manières polies d'échanger avec lui. Je crois que tout ça ne sera possible que sur le fond d'une communauté éducative décentralisée, c'est-à-dire que la pièce maîtresse des dispositifs aujourd'hui, c'est l'établissement quand il est lui-même une communauté fonctionnant bien. Dans l'expérience que j'ai des lycées, la différence entre un lycée qui marche et un lycée qui ne marche pas aujourd'hui, c'est la valeur de la communauté éducative, le caractère soudé des équipes d'enseignement, le rapport avec une direction qui soit ouverte au dialogue et en même temps qui sache prendre ses décisions et ses responsabilités. Là où il y a une communauté, on résiste à la violence, y compris dans des quartiers extraordinairement difficiles. Là où il n'y a pas de communauté, tout part dans tous les sens et on se retrouve dans ces situations d'hyper-brutalité dont j'ai essayé un peu de vous parler. Voilà, merci.